Session du Père Marie-Dominique Philippe sur les trois sagesses, le 26 septembre l'an 2000 à Saint-Jodard, deuxième conférence.
Je réponds à deux questions. Vous dites qu'il faut séparer l'homme philosophe et l'homme théologien en nous. Je n'ai pas dit séparer, j'ai dit distinguer. Et je vous ai dit de faire grande attention. Vous voyez, alors je le répète, la distinction n'est pas la séparation. Mais en tant que chrétien, est-ce que je peux avoir un regard critique éclairé par ma foi sur ma philosophie réaliste? Oui. Je peux très bien comprendre que quelquefois je puisse me tromper et qu'alors ce que je dis n'est plus conforme à ma foi chrétienne. Par exemple, un philosophe de philosophie réaliste pourrait arriver à ne pas voir du tout la finalité de l'être. Comme c'est pas commode, c'est difficile. Toute la métaphysique de l'acte, beaucoup n'y arrivent pas. Et alors, dire que Dieu a créé sans finalité, quand Dieu a créé mon âme, il a créé pour qu'elle puisse atteindre le bonheur. Et certains pourraient dire, Dieu a créé l'âme, mais elle n'a pas de finalité. Donc ce serait contraire à ma foi. Ma foi, je le dis, du point de vue de la foi, c'est évident que si vous mettiez une séparation, alors il ne pourrait pas critiquer. Mais il n'y a pas de séparation. Je suis philosophe et je suis chrétien. C'est la même personne. C'est le terrain d'atterrissage qui est le même pour la philosophie et pour la théologie. Et pour la foi, c'est la même personne humaine qui est chrétienne et qui est intelligente. C'est curieux. Mais je fais une distinction entre les deux. Quand je crois, je suis comme un enfant vis-à-vis de Dieu, tout petit. Quand je fais de la philosophie, je suis autonome. Et je cherche deux attitudes très différentes. Et c'est la même personne qui croit et qui est philosophe. Mais elle sait très bien qu'en tant que philosophe, elle a une autonomie quant à son intelligence et par l'intelligence. Et quand elle est croyante, elle est toute dépendante de Dieu, du Père, qui me révèle son amour. Donc distinguez bien, faites bien la distinction entre distinguer et séparer. La séparation implique un jugement d'existence où il y a deux réalités. La distinction, simplement qu'il y a une intelligibilité différente, une raison différente d'un côté et de l'autre. Je distingue. Vous nous avez parlé du maître et je voudrais vous demander comment on peut éviter le risque de devenir un perroquet. Oui, ce serait triste. La finalité de la philosophie, c'est de ne pas élever des perroquets. Quand on suit les cours de grands maîtres, je comprends. Il faut revenir à la source et pourtant on répète facilement des phrases sans les comprendre. Au point de départ de la code de la marque, il vaut mieux répéter que dire faux. Mais il faut donner sa source. Tel professeur a dit cela. Et pour le moment, je ne comprends pas très bien, mais je répète. Vous avez le droit de faire ça. Au début, on est obligé de faire des cours. Il y a des trous. Et là, on répète ce qui nous a semblé intelligent. Vous avez le droit de répéter ce que vous avez trouvé d'intelligent tant que vous n'avez rien trouvé de plus intelligent. Ah. J'ai le droit de dire « Aristote dit ceci ». J'ai parfaitement le droit de le dire. Je répète Aristote, un grand maître. C'est Dante qui dit « Le maître de ceux qui savent ». C'est très joli. C'est le maître de ceux qui savent. Vous n'êtes pas obligé de, sur toute chose, d'avoir tout repensé par vous-même. Au bout d'un certain temps, oui, quand on a enseigné la philosophie pendant des années et des années, alors on a le droit, à ce moment-là, ce qu'on dit a été repensé. Depuis 1937, je fais des cours de philosophie. Alors, en 1937, quand j'ai commencé, je citais beaucoup Aristote. Parce que j'étais un maître. On a des maîtres morts et des maîtres vivants. Et il faut les citer. Il ne faut pas être perroquet d'Aristote. Il faut citer. Aristote dit ceci. Et puis, si on l'a découvert soi-même, on n'est plus obligé de dire qu'Aristote l'a dit. Parce qu'on sait comment on est obligé de dire ça. C'est une question d'intelligence. Il vaut mieux répéter quelque chose d'intelligent qui nous dépasse que de dire quelque chose d'idiot, de peu intelligent, qui vient de nous. Il y a des robinets d'eau chaude et des robinets d'eau froide. Bon, alors il faut savoir, des robinets d'eau chaude, c'est ce qui vient de nous, des robinets d'eau froide. Un tel l'a dit, je répète. Mais il vaut mieux l'eau froide, même si elle est froide, si je répète, mais que c'est vrai, mais que cela, un grand maître l'a dit. Oui. Bon. Je vous ai dit, en terminant tout à l'heure, que nous regarderions bien la différence entre science et sagesse. Puisque c'est sur les trois sagesses que je vous parle, il faut donc bien distinguer ce qui est sagesse et ce qui est science. La science est à l'aise dans l'analyse. Alors, il faut encore distinguer science philosophique et science moderne et science mathématique. Les sciences actuelles, les sciences modernes, de physique, de chimie, de biologie, ou les sciences humaines, cherchent des lois. Qu'est-ce que c'est que la loi ? C'est une relation de nécessité entre l'antécédent et le conséquent. Je pose tout ce qui est nécessaire pour qu'il y ait telle conséquence. La loi cherche des liens de nécessité qui peuvent exister entre antécédents et conséquents. Une relation, ce qui est antérieur, ce qui est postérieur. Que cherche la philosophie ? Même la philosophie comme science. Elle cherche des principes. Ah, le principe n'est pas une loi. Le principe, le mot l'indique, c'est ce qui est premier. En philosophie, je cherche la philosophie scientifique. Elle cherche des principes. Tandis que le savant cherche des lois. Il faut bien distinguer entre les deux. La loi, une relation. Donc, par définition, la loi n'est pas un principe, puisque c'est une relation. Tandis que le principe n'est pas une loi, puisqu'il est premier, et non pas une relation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Le mot science moderne et le mot philosophie scientifique, ils cherchent des principes. Des principes et des causes. La philosophie a toute une partie d'analyse scientifique, de recherche des causes, de recherche des principes. Tandis que la sagesse cherche ce qu'il y a de premier au point de vue de l'intelligence, au point de vue de l'être. Ce qu'il y a de premier, pas comme principe, mais comme réalité, Dieu. Le sage cherche la découverte de Dieu, du Créateur. Elle cherche la découverte du Père de mon âme. Et tant que je n'ai pas découvert le père de mon âme, je suis orphelin. intellectuellement. Je n'ai pas découvert la source de mon âme. Dieu n'est pas un principe. Dieu est une réalité qui est la réalité ultime, dernière, au-delà de qui il n'y a rien. Voyez donc, la philosophie est science, et lorsque, en dernier lieu, je me pose la question, y a-t-il une réalité autre que les réalités que j'expérimente ? Y a-t-il une réalité autre que l'homme ? Et je cherche s'il y a une réalité première, ultime, autre que l'homme. Je vois que l'homme ne peut pas être cette réalité ultime parce qu'il est limité dans son être. Et il est multiple. Le simple fait que votre voisin existe, vous ne pouvez pas être Dieu. Et vous remerciez votre voisin de vous mettre dans la vérité. Parce que si vous dites que vous êtes Dieu, il n'y a pas de raison que votre voisin ne dise pas aussi qu'il est Dieu. Donc, vous n'êtes pas premier. C'est sûr. Vous ne pouvez pas être Dieu. Dieu, ça veut dire l'être suprême, l'être premier. Le mot « Dieu » n'est pas philosophique. Du moins, attention, le mot « Dieu » n'est pas inventé par les philosophes. Il a été inventé par les traditions religieuses. Le mot « âme » n'a pas été inventé par les philosophes. Il a été inventé par les traditions religieuses. Et je me demande si, au point de vue purement philosophique, je peux affirmer l'existence de l'âme, indépendamment des traditions religieuses. Et je me pose la question, est-ce que mon intelligence peut atteindre un être premier ? Est-ce que mon intelligence est obligée d'affirmer qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. Dès que je découvre la réalité ultime et première, je dépasse l'analyse scientifique et je découvre celui qui est cause ultime, principe ultime de tout ce qui existe. La science est toujours une recherche multiple. La sagesse seule est simple dans sa découverte ultime. Une fois que j'ai découvert l'être premier, je peux dire qu'il est absolument simple. Et donc Dieu, je ne peux que le contempler. Il échappe à l'analyse. Les réalités qui échappent à l'analyse, je peux les contempler. Je ne peux que les contempler. Alors, ce serait très intéressant de bien préciser que chaque science a ses analyses propres. Et il y a la philosophie qui a donc ses analyses propres. Je commence ma philosophie par étudier l'homme travaillant, l'homme artiste réalisant une œuvre d'art. Il travaille. Et je peux l'expérimenter et lui demander comment se fait son travail. Je peux expérimenter l'homme responsable de son travail. La responsabilité que j'ai de mes activités va plus loin que mon travail. Le travail réalise une œuvre, alors que la responsabilité qui est en moi est quelque chose d'immanent au plus intime de moi-même et ne se réalise pas dans quelque chose d'extérieur. J'ai une activité immanente à moi. Je peux aussi avoir une coopération dans mon travail, une coopération dans mes responsabilités. J'ai là une nouvelle expérience. Vous voyez, il y a trois grandes expériences qui sont toutes simples que je peux expérimenter constamment. J'ai l'expérience du travail. Je ne réalise pas toujours une œuvre, mais ce travail peut conduire à une œuvre. Il peut conduire à un petit travail intellectuel sur un sujet donné. C'est un travail. Et il y a un effet, il y a un résultat. Le travail que j'ai quand je me nourris, que je prépare mon repas, je fais la cuisine avec plus ou moins d'art. Et je fais le résultat. Vous voyez, l'homme travaillant, l'homme responsable de ses activités, responsable d'un autre homme, l'amitié. L'homme coopérant avec un autre. On a le fondement de toute philosophie réaliste. On commence à regarder l'homme. Parce qu'on fait la philosophie de l'homme. Vous ne faites pas la philosophie du crapaud. Quand je travaillais la philosophie chez les Dominicains, j'avais un père qui travaillait les araignées. Faisait la philosophie des araignées. Tout ce qu'on avait écrit sur les araignées, il le connaissait. Alors je lui ai demandé un jour, mais à quoi ça sert de faire la psychologie des araignées? Vous voyez ? Parce qu'il m'a dit, il me disait, les araignées ont un irascible extraordinaire. On voit l'araignée faire sa toile d'araignée. Et l'araignée est là, attendant le gibier. pendant que la mouche se prenne dans la toile d'araignée. Et à ce moment-là, l'araignée se précipite dessus et la pique. L'araignée a soif du sang. Et elle vous pique et elle prend le sang. C'est pour ça que vous êtes de temps en temps piqué par les araignées. Hein ? Et la soif de sang, ça c'est l'irascible, hein, terrible. Hein. On fait la philosophie de l'homme, parce que quand vous parlez de l'irascible de l'araignée, c'est que vous voulez connaître l'irascible de l'homme. On est quelquefois comme une araignée. Il y a 10 hommes araignées qui aiment de piquer. Pas de sang. La philosophie s'intéresse avant tout à l'homme. S'intéresser à l'araignée, c'est secondaire, c'est une petite spécialité. Je me disais toujours, si jamais le couvent croule et qu'on ne découvre qu'une seule cellule, on verra dans cette cellule tous les ouvrages sur l'araignée. On dira, c'est curieux. Il y avait là un couvent, et tout ce couvent travaillait sur les araignées. C'est comme ça qu'on reconstruit les choses. La philosophie, après avoir étudié, avoir analysé l'homme qui fabrique, l'homme responsable de ses actes, l'homme capable de coopérer. Vous avez trois parties de la philosophie. La philosophie de l'art, la philosophie morale et la politique. Trois expériences. Parce que la coopération, ça vous mène à une communauté politique. Et plus la coopération est profonde, plus vous avez l'homme politique. L'homme qui travaille avec un autre. L'homme qui est responsable avec un autre. Alors tous les étages. Et vous avez ensuite quelque chose de très important, la recherche de la vérité pour elle-même. Vous ne regardez plus l'homme dans ses opérations, mais l'homme en lui-même. Et vous cherchez ce qu'il est, sa vérité. Vous avez l'homme en lui-même, il est partie de l'univers. C'est un être qui devient. C'est même l'être qui devient le plus. Depuis le premier moment de la conception jusqu'au moment de la mort, c'est un être qui devient. L'être et le devenir. Il est. Et il devient. Cet être devient, mais il est vivant. Il devient dans une croissance. Et puis, il est la métaphysique. Il est. Qu'est-ce que l'être ? L'être à l'homme. L'être chez le vivant, l'homme vivant. L'être dans le devenir. Vous avez les trois parties de la philosophie dite spéculative. La recherche de la vérité pour elle-même. Vous avez donc six parties de la philosophie. Toutes distincte. Et c'est toute, c'est l'étude de l'homme. Vous avez six parties dans la philosophie. Et la dernière partie, ultime, dans la métaphysique, seule l'étude de l'être me conduit à l'étude de l'être premier. Adieu. L'étude du devenir n'a pas de limite. Il n'y a pas de premier dans le devenir. L'étude du vivant n'a pas de premier. L'étude de l'être seul a un premier. L'être premier. Dieu, quand il agit comme Dieu, il crée. Au sens rigoureux, Dieu ne crée pas la vie. C'est Maître Eckhart qui dit ça. Et il a raison, c'est pour ça que je le cite. Au sens strict, Dieu crée des êtres vivants. Et donc, seule la philosophie de l'être, la métaphysique, l'au-delà du devenir, l'au-delà de la croissance du vivant, l'être me permet d'affirmer l'existence d'un être premier. Et quand je découvre cette existence de l'être premier, ma philosophie scientifique se transmet en sagesse. Et je regarde tout dans la lumière de l'être premier de Dieu. Vous voyez qu'il y a donc six parties scientifiques dans la philosophie. Et tout cela est finalisé par la sagesse. Il y a donc des analyses philosophiques multiples. C'est tout le travail que nous faisons ensemble, voir ces six parties philosophiques. Aristote avait découvert ces six parties. Et c'est pas parce qu'Aristote le dit que je dis qu'il y a six parties, c'est parce que, de fait, si vous étudiez l'homme, vous avez six manières de le regarder et de l'expérimenter. Vous avez six expériences de l'homme. Six expériences capitales. Et tout cela me conduit à l'être premier. était devant l'être premier, mon intelligence l'ayant découvert est en admiration et le contemple. Et j'ai à ce moment-là la théologie naturelle, ce que mon intelligence humaine peut dire de Dieu. C'est la sagesse philosophique qui ne s'enseigne plus beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas dans combien de lieux on enseigne aujourd'hui la théologie naturelle. Le mot théologie est dans Aristote et dans Platon. Théologie, le logos sur Dieu, la contemplation. Dieu, je ne peux que le contempler et découvrir ce qu'il est. Ah, vous voyez l'importance de la théologie, l'importance de la philosophie sagesse théologique. C'est sûr que je ne connais pas directement Dieu, je n'ai pas d'expérience immédiate de Dieu. Je n'ai expérience de Dieu qu'au plan surnaturel. Je n'ai pas d'expérience directe, mais mon intelligence peut en parler. Dieu, je ne l'ai pas touché avec ma main. Dieu, je ne l'ai pas vu avec mes yeux. Mais mon intelligence a soif de la vérité. Et mon intelligence, quand elle a soif de la vérité, elle n'hésite pas de faire tout ce parcours, ces six parties de la philosophie. Premier pas, philosophie de l'art, philosophie du travail, philosophie morale, l'éthique, philosophie politique. Voilà le triangle de base. Et à partir de là, je m'élève pour rechercher la connaissance et la vérité pour elle-même. L'homme est un être physique, partie de l'univers. En lui, il y a un devenir. À cause du corps, l'homme est un être vivant. Il faut comprendre ce que c'est qu'un être vivant. L'homme enfin est un être. Et je me demande quel est l'être à l'homme. Et j'étudie la métaphysique. Voyez bien les liens profonds qui sont dans la philosophie. Et j'étudie les principes dans l'ordre du travail, dans l'ordre de la responsabilité morale, dans l'ordre politique. J'étudie la nature, le vivant, l'être. Et je peux à ce moment-là vraiment découvrir une sagesse, Dieu. Je vous disais, il y a un instant, il serait très intéressant d'étudier la différence d'analyse du philosophe et du savant. Le savant, vous avez tous fait de la science, mais vous n'avez pas tous fait de la philosophie. Vous avez tous fait de la science, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand on dit qu'on fait de la philosophie, on fait de l'histoire de la pensée. On étudie les philosophes, les grands philosophes. Mais étudier les philosophes, c'est pas faire de la philosophie. Vous voyez, c'est le perroquet qui désire savoir ce que Monsieur Lafontaine a pu dire. Philosophie, il y a une certaine philosophie dans Lafontaine, une morale merveilleuse. Avec un style spécial qui n'est pas le style philosophique, mais après tout. Et puis, il y a un Camus qui a étudié l'homme, le premier homme. Ils sont philosophes puisqu'ils ont réfléchi sur l'homme. Tous ceux qui réfléchissent sur l'homme sont des philosophes. Ils sont plus ou moins logiques, plus ou moins systématiques, mais ils sont des hommes. Ils sont des philosophes, réflexion sur l'homme. Et Lafontaine est un philosophe merveilleux. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Hein. C'est pas bête, ça. Il y a des hommes qui sont comme des grenouilles qui veulent devenir aussi grosses que le bœuf. C'est une manière de regarder cette ambition de l'homme. Parce que vous n'avez jamais vu des grenouilles qui veulent venir aussi grosses que le bœuf, mais vous avez vu des hommes qui sont comme des grenouilles qui veulent venir aussi grosses que le bœuf. Et en faisant ça, il nous fait comprendre qu'il peut y avoir un orgueil tellement fort qu'on pense qu'on est l'homme parfait, l'homme par excellence. Le philosophe étudie l'homme. Alors, en tant qu'il est vraiment philosophe, il analyse. Lafontaine n'analyse pas en philosophe, il analyse en poète. Mais son analyse est tellement intelligente, fine, que ça peut faire de la philosophie. Il a une manière de regarder l'homme intéressante. Puis je peux, moi, étudier l'homme travaillant. Alors, à ce moment-là, le philosophe recherche les causes. Il recherche les premiers. Et je vois que l'analyse philosophique implique cette recherche des premiers selon la matière, cause matérielle. Selon la forme, cause formelle, les déterminations, selon l'efficience, selon la finalité. Toute l'analyse philosophique est basée sur les quatre causes. Pas l'analyse scientifique de sciences modernes. Parce que elle ne recherche pas ce qui est premier, elle recherche des lois. Or, les lois, c'est la recherche de la nécessité entre l'antécédent et le conséquent. Et dans les lois, toutes les causalités sont présentes. Mais le philosophe, lui, étudie ses causes. C'est ça qui l'intéresse. Quelle est la cause matérielle de l'homme travaillant? Quelle est la détermination de l'homme travaillant? Quelle est la capacité de l'homme travaillant? Son efficacité? Quelle est sa finalité? Et je découvre ces diverses causalités, ces divers premiers, grâce à une méthode inductive. Ça, c'est propre à la philosophie. Mais Bacon a transformé cette méthode d'induction philosophique en une induction scientifique. Donc, l'induction peut exister au point de vue scientifique. Alors, vous ne cherchez plus les premiers selon les causalités, vous cherchez les premiers qui commandent toute une série. C'est ça qui vous intéresse. Il faut donc reconnaître que dans la philosophie, il y a une connaissance d'un type particulier. Et cette connaissance d'un type particulier repose sur le jugement d'existence. Le jugement d'existence existe dans la recherche philosophique de l'homme travaillant, de l'homme responsable, de l'homme coopérant. Il existe, ce jugement, l'existence, existe dans la recherche du devenir, dans la recherche du vivant, dans la recherche métaphysique. C'est ça qui est extraordinaire. Vous trouvez dans ces différentes zones intellectuelles, vous retrouvez des problèmes analogues. La recherche du premier dans l'ordre matériel, la recherche du premier dans l'ordre de la détermination, la recherche du premier dans l'ordre efficace, dans l'ordre final. C'est pour ça que ces six parties de la philosophie ont quelque chose d'identique, parce qu'on retrouve la recherche des quatre causes, des quatre premiers, dans ces ordres différents. Et vous voyez qu'en définitive, la philosophie s'achève en sagesse contemplative. Vous contemplez. Et dans cette recherche philosophique de contemplation, il y a un repos de l'intelligence. Elle ne cherche plus. La contemplation est au-delà de toutes les analyses, au-delà de toutes les recherches des diverses causalités. C'est l'intelligence qui se repose enfin dans l'être suprême, Dieu. Vous voyez que cette recherche philosophique est toujours unifié par cette recherche de la vérité, et que c'est cette recherche de la vérité qui me conduit à l'être premier. En, port, en passant par tous ces démarches qui peuvent très bien ne pas se faire selon l'ordre classique. Je peux très bien me poser tout de suite la question métaphysique par le jugement d'existence. Ceci est je suis. Et je suis, en tant que je suis un certain être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Comment puis-je analyser l'être? Et donc, je peux immédiatement me poser le problème métaphysique. Et très vite, atteindre la sagesse. Mais normalement, pour que ma métaphysique soit plus claire, plus limpide, il est normal de passer par toutes ces recherches, les trois recherches pratiques, puis les deux autres recherches spéculatives, avant la recherche de l'être.